Bon matin, tout le monde, ça va bien? Genre de question, tu peux pas répondre non, tu sais. Et si ça va pas, eh bien c'est normal, ça arrive. Okay. Mais je crois qu'à la fin de la réunion, ça ira mieux. Est-ce qu'il y en a que juste le temps de louange, ça fait du bien? Ouais, ça fait toujours du bien. Oh non, moi j'aime ça, le temps de louange. Très heureux d'être avec vous ce matin, pour ceux que j'ai pas eu le temps de dire bonne année. Bonne année 2025. Je sens qu'il y a beaucoup de réciprocité, ça me touche beaucoup. mais très heureux de commencer cette thématique pray sur la prière. C'est toujours bon de commencer ça. C'est un peu le marronnier dans les églises. C'est en janvier, on fait sur la prière. On fait on va prier sur la prière, tout ça. Mais ça fait du bien. On a besoin de prier. J'ai besoin de prier. Qui a besoin de prier ici? J'ai besoin de prier. On a tous besoin de prière. Et la vérité, c'est que cette thématique-là, elle est pour moi premièrement. J'en ai besoin, j'ai besoin de ça, et je vous apporte un message ce matin, mais il est pour moi. Il est aussi pour moi, ce message-là. Et j'ai hâte de vous le prêcher, c'est quelque chose que j'avais à cœur, que j'avais partagé à Stéphanie depuis quelques semaines déjà. Et très heureux d'être là et de participer à cette thématique Pray. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse prier avant de commencer? Thématique Pray, je pense, une bonne idée de prier. Ouais, on prie? Yes. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Seigneur, merci pour la joie qu'on a de se rassembler, d'être ensemble, Seigneur, de se réunir pour toi, Seigneur, autour de toi, dans ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur, tu es présent, tu es ici. Et Seigneur, juste te remettre ce temps, te remettre ce message, Seigneur, je te prie que ce soit toi qui parles, qu'au-delà de ma voix, de ce que j'ai pu préparer, que ton Saint-Esprit puisse toucher chacun selon ce qu'il a besoin, et moi le premier. Seigneur, alors je te prie de venir faire ton œuvre. Seigneur, je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Je te remercie d'avance pour les paroles que tu vas donner à chacun, à chacune. Seigneur, qu'on puisse ressortir de là ce matin, fortifié, encouragé à prier, sachant que tu es là, que tu es bon, que tu nous aimes et que tu écoutes nos prières. Seigneur, c'est en ton nom précieux que j'ai prié ce matin. Tout le monde dit amen. Yes. Est-ce que vous êtes prêts pour les deux prochaines heures? Donc, parfait, il y en a qui sont à fond. Let's go. La prière. J'aime cette thématique. Pray, c'est simple, il n'y a pas besoin de fioritures. Non, ça s'appelle pray. Okay? Des fois, c'est just pray. Okay? Fais juste prier, fais juste parler à Dieu. Et si la prière n'était pas ce que tu croyais? Et si la prière n'était pas ce qu'on croit? Souvent, on peut grandir dans l'Église, dans notre vie, à nous, puis on a des façons de prier, on a des façons de croire de comment la prière fonctionne ou pas. Puis on se rend compte qu'en évoluant au fur et à mesure, pour ceux que ça fait plusieurs années que vous êtes chrétien, que finalement, il y a des choses qu'on croyait qui ne sont pas tout à fait ça, et il y a des choses qu'on ne croyait pas que finalement, c'était intéressant. Et si la prière n'était pas ce que tu croyais? Je remarque aussi que la prière, c'est quelque chose de personnel. On a tous des vies de prière différentes. Il y en a qui en ont une, il y en a qui n'en ont pas. mais il y en a qui en ont une, il y en a qui en ont une différente. J'ai pas la même vie de prière que ma femme. On n'aborde pas la prière de la même manière. D'ailleurs, souvent, je remarque que les femmes, la façon dont les femmes voient la prière et dont les hommes voient la prière est différente, en général. Mais chacun d'entre nous, on peut pas comparer nos vies de prière parce que on la vit différemment. Il y en a quand ils ont besoin de prier une heure. Il y en a, c'est juste des prières, des breathe prayers. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi? Elle en a parlé exactement, elle en a parlé juste de « Hey, merci Seigneur, hey, merci Seigneur pour ça. Hey Seigneur, je te prie pour mes enfants ce matin, bénis-les. » Des breathe prayers, juste one shot. Et il y en a pour eux que ça, ils croient que ce n'est pas de la prière alors que c'est totalement de la prière. Les prières d'urgence de « Seigneur, à l'aide !» C'est une prière. Ça dure juste 4 mots et pourtant c'est efficace, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'avoir les plus belles prières, etc. On a tous des façons de voir la prière. On la vit tous différemment. Et je ne sais pas si ça t'arrive, mais des fois où tu as l'impression que tu pries et que ça ne sert à rien. Tu pries et tu as juste l'impression que ça ne sert à rien. À quoi ça sert que je prie? Tu as l'impression de prier dans le vide et de parler à un mur? Est-ce que je suis le seul comme ça? Tu es là et tu dis... Allô, il y a quelqu'un? C'est... One test, two, two. Est-ce... Moi, je trouve des fois... C'est... J'ai cette impression-là avec la prière. Je peux être pasteur et des fois, on met les pasteurs sur un piédestal de oh, ils ont une vie prière. Dès qu'ils prient, ils sont à genoux et le ciel tombe. Non, ne prends pas cette photo. Non, des fois, c'est comme qu'est-ce qui se passe? On a l'impression de parler dans le vide. Et des fois, même, tu pries pour des sujets depuis des mois, voire des années. Et la vérité, c'est que rien n'a changé. rien n'a changé. Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un est là? À quoi ça sert que je prie? Et c'est frustrant, c'est décourageant, et si on est honnête, parfois ça ne nous donne pas envie de continuer à prier. Je sais, Yana, je viens de baisser dans votre estime. Mais ça ne nous donne pas envie. Le titre de mon message ce matin, c'est « Quand ma prière ne change rien ». Vous savez, souvent on est habitué à entendre des messages sur « Prie, Dieu va faire des choses incroyables, c'est extraordinaire ». Et tu écoutes les histoires des autres et tu fais ben, « Ça a l'air de marcher pour toi, mais ça a l'air pour moi, ça ne marche pas. Peut-être qu'on n'a pas le même Dieu, je ne sais pas. » Quand ma prière ne change rien. S'il y en a qui sont dans ces situations, des fois, tu as l'impression que ta prière, ça ne sert à rien, ça ne change rien. Je suis le seul. Je suis le seul à être dans mon cubicule seul. Quand ma prière ne change rien. La prière me rend confus. Parce que des fois, il semble qu'il y a des sujets pas urgents dans ma vie où je prie pour ça et il semble que Dieu répond de suite, comme ça. Je dis, waouh, même pas une journée s'est passée, Dieu a répondu à ma prière. Il semble que j'ai des sujets bien plus urgents et bien plus graves et que Dieu prenne tout son temps pour répondre. Hello, il y a quelqu'un? Ico? Des sujets pas importants, Dieu répond. Il semble qu'il y a des sujets vraiment importants où ça serait le temps que tu fasses quelque chose. Et Dieu n'agit pas. Ou en tout cas, il n'agit pas comme nous, on voudrait. Il me semblait que ça aurait été à ce moment-là que Dieu aurait touché cette personne. Il me semblait que c'est cette année que ça se passait. Et rien ne se passait. Il y a une frustration qui est là. Je me rappelle, j'ai donné ma vie à Dieu à l'âge de 16 ans. Je me suis fait baptiser. Il y a une photo qui apparaît, peut-être. Je suis à gauche, vous voyez. Ce qui est bien, c'est que la photo est floue, donc on ne peut pas trop voir les détails et les boutons qu'il y avait sur ma face à cet âge-là. D'ailleurs, à l'époque, on m'appelait calculatrice. Ah, bah, Julien, tu rigoles. Eh bien, bravo. Est-ce qu'il y en a qui sont passés par là? Est-ce qu'il y en a qui passent par ce moment? Et si je suis honnête avec vous, sur le chemin de ma vie de prière depuis que j'ai 16 ans, je me suis souvent demandé à quoi ça servait de prier tous les jours. À quoi ça sert? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de faire, tu sais, de faire un peu les mêmes prières? Hey, Seigneur, merci pour ça, je te prie pour ça, je te prie. Tu sais, souvent, on a tendance à faire les mêmes prières dans ma vie de prière. Puis c'est correct, il n'y a pas de souci avec ça. Mais j'ai remarqué que quand je priais, ça ne changeait pas grand-chose à ma vie. Au fur et à mesure que ma vie avance dans ma vie chrétienne, j'ai remarqué que prier tous les jours ne changeait rien à ma vie. Je ne sais pas s'il y en a qui se sentent comme ça des fois. Tu pries, tu viens à l'église, mais j'ai juste l'impression que je prie, puis honnêtement, ça ne change rien à ma vie. Je ne vois pas la différence avec un non-chrétien et moi. Je ne vois pas la différence. C'est quoi la différence que ça fait? Sauf qu'il y avait une twist. J'ai remarqué que les choses dans ma vie et ma vie commençaient à changer lorsque j'arrêtais de prier. C'est comme si quand on est dans une prière continuelle où on prie, puis on continue à prier, on a l'impression de ne pas avoir de changement. Mais en fait, c'est quand on arrête de prier qu'on commence à se rendre compte que les choses commencent à glisser. On commence à perdre des choses. Il me semble qu'il y a des choses que je commence à perdre. Il me semble que ma vie change, mais pour le pire. Et moi, j'ai remarqué ça dans ma vie. Et en fait, nos vies changent par notre prière. Ta vie change par ta prière. C'est juste que tu es dans un changement continuel et tu ne t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Parce que Dieu est là, Dieu agit, Dieu est présent avec toi. Et sa présence te fait du bien. Mais c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dedans. Quand ma vie de prière est sèche, que je manque d'assiduité, que je manque de constance, que je manque de discipline, j'ai remarqué que je devenais plus énervé. J'ai remarqué que je devenais frustré plus facilement et plus rapidement. Donc là, ma femme se demande, es-tu en manque de prière en ce moment? Mais je remarquais que j'étais plus énervé, plus frustré, et ne vous fiez pas à mon sourire angélique. Non. Mon langage change, mes motifs changent, et surtout je remarque que quand ma vie de prière est sèche, que je suis loin de Dieu, je perds ma joie. Et je prenais pour acquis la joie que j'avais. Parce que je croyais qu'elle venait de moi. Je croyais qu'en fait ça allait bien, et j'étais bien parce qu'en fait j'étais une bonne personne et que j'étais naturellement comme ça. Mais j'ai remarqué que quand j'arrêtais de prier, ma chair revenait à la surface. Tout ce que j'avais envie de faire, de pécher, tout ça, tout revient à la surface quand tu ne pries pas. Et ça devient plus facile. Mon langage, mes pensées changent. Oh, peut-être que vous ne le remarquerez pas, mais moi je le sais. On le sait, quand on arrête de prier, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui diminue, il y a une joie qui s'en va. Et c'est dans ces moments-là que je découvre ma chair, le péché en moi qui monte facilement et qui monte plus vite que je pensais. Et c'est pour ça que j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier parce que c'est vital. Ça me fait du bien et j'en ai besoin. J'ai besoin de prier. Pas parce que je suis spirituel, mais justement parce que je ne suis pas spirituel. Je ne suis pas spirituel. J'ai besoin de prier. Mon âme a besoin de prière. J'ai besoin de prier. On est fils et filles de Dieu et on a besoin de prier. Pourquoi ? Parce que quand on prie, on se rapproche de Dieu, on vient dans sa présence nous fait du bien. Et c'est comme si je redécouvre que je suis fils et fille de Dieu. J'ai besoin de prier. Parce que sans prière, tranquillement, pas vite, doucement, on commence à glisser. Et tu te demandes à quoi ça sert ? Oh, non, ça sert, crois-moi, ça sert à ta vie. Ta vie change, ta vie est transformée. C'est juste que quand on est dans un mode constant de prière, des fois, on ne se rend pas compte. C'est seulement quand on arrête de prier qu'on réalise que la prière était efficace. Quelques considérations sur la prière. Premièrement, la prière n'est pas magique. Ce n'est pas une machine à sous où on tire dessus puis on attend que les trois bananes s'alignent pour gagner le jackpot. Est-ce que vous me suivez ? Souvent, on peut avoir cette image-là. Puis souvent, on a un Dieu 911 qu'on appelle seulement quand on a besoin. Croyez-moi, moi aussi, je fais appel à ce Dieu-là quand on a des problèmes. Mais ce n'est pas ça la prière, ce n'est pas une prière magique. Deuxième chose, c'est si Dieu semble ne pas répondre, c'est pas parce que tu n'es pas spirituel. Ah, si Dieu n'a pas répondu, c'est parce que tu n'as pas prié avec assez de foi, parce que tu n'es pas... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Puis on va voir des choses ce matin. Troisième chose, il y a une différence entre une réponse de Dieu et un exaucement de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas exaucé ta prière que Dieu n'a pas répondu. Si tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu te dit non, il t'a répondu. Oh, ça ne fait pas plaisir. Mais il t'a répondu. Est-ce qu'il y a des parents ici ? Quand ton enfant veut des choses et que tu lui dis non, tu lui as répondu. Est-ce qu'il est content ? Non, pas du tout. Mais Dieu répond. Et Dieu répond aussi par des noms. On a souvent cette tendance à dire « Oh, j'attends une réponse de Dieu ». Non, tu n'attends pas une réponse de Dieu, tu attends un exaucement de Dieu. Et il y a une différence entre la réponse et l'exaucement. Dieu t'a répondu et dit « Non ». Ou alors il t'a dit « Oui, mais pas tout de suite. Il y a le temps, il y a le plan de Dieu. Mais parfois, il semble aussi que la prière ne fonctionne juste pas, même pas l'ombre d'un changement, même parfois, ça empire. Et des fois, j'ai comme l'impression d'être avec un truc Ikea et de me dire, mince, c'est quoi que j'ai raté ? Tu sais, j'ouvre mon truc Ikea prière, puis je fais, c'est quoi que j'ai raté ? Sais-tu à quelle étape que j'ai pas bien fait pour que Dieu m'exauce ? Et on peut en venir à la fausse conclusion que soit Dieu n'est pas assez puissant, pour répondre à ma prière, pour l'exaucer. Et s'il est assez puissant, qu'il n'est pas assez bon. Si Dieu est assez puissant pour répondre à ma prière, pourquoi il ne le fait pas ? Je sais que vous ne vous posez pas ces questions, mais moi, oui. Si Dieu est assez puissant, pourquoi il ne le fait pas ? Et on en vient à peinturer Dieu dans un coin et à le mettre là. Alors ce matin, j'aimerais voir ensemble pourquoi parfois rien ne change lorsqu'on prie. J'aimerais voir trois, entre guillemets, mauvaises raisons et trois bonnes raisons. Trois raisons qui dépendent entièrement de nous et faciles à régler, et trois raisons qui dépendent de Dieu, entre guillemets, et qu'on va plus développer ce matin. Alors, trois mauvaises raisons, on va dire, entre guillemets, qui dépendent de nous et qui sont faciles à régler. La première chose, c'est que tu es peut-être l'obstacle à l'accomplissement de Dieu. Souvent, on prie des choses à Dieu et on ne se rend pas compte qu'on est dans le chemin de Dieu. Et Dieu nous dit « Get out of the way, sors de là, sors du chemin ». En général, si tu veux passer dans une salle et qu'il y a quelqu'un devant la porte, tu ne pourras pas passer. Et c'est comme si nous, des fois, on est dans la porte de ce que Dieu veut faire. On est là, puis on dit « Seigneur, agis, ouvre la porte !» Tu es devant la porte, sors ! Et ça arrive souvent dans nos relations, quand on prie pour les gens. Combien de fois j'ai vu des gens prier pour leur famille, pour leurs frères, pour leurs sœurs, pour leurs enfants. « Seigneur, touche mon enfant, qu'il puisse réaliser qu'il est loin de toi !» Et quand tu vois ton enfant, c'est « T'as vu ta vie ? Tu crois que Dieu prend plaisir à ça ?» Est-ce que vous me suivez ? Et on est plus dans le jugement, dans la culpabilité, alors que tout ce qu'ils ont besoin, c'est qu'ils ont besoin d'amour. Et on est dans le chemin de l'exaucement. On est dans le chemin de ce que Dieu veut faire. On est juste l'obstacle de ce que Dieu veut faire. Sors du chemin. Est-ce que tu es l'obstacle à ce que Dieu veut faire ? Et pour avoir été avec beaucoup de familles et beaucoup de parents qui ont des ados, souvent, c'est hallucinant de voir comment les parents prient pour leurs enfants et ils sont eux-mêmes l'obstacle à leur prière. Et je ne dis pas ça pour culpabiliser, pour enfoncer, pas du tout. C'est juste pour nous faire réaliser que des fois, Dieu nous dit « Sors du chemin, voilà, merci. » Sors du chemin. Des fois, on est l'obstacle nous-mêmes à ce que Dieu veut faire.
Oh Seigneur, fais un miracle pour mes finances. Mais je garoche tout mon argent dans le Black Friday et dans le Cyber Lundi. Est-ce que vous me suivez? Des fois, on a comme une dichotomie dans nos têtes. Seigneur, agis! Ben, j'aimerais agir, mais tu dépenses tout, qu'est-ce que je fasse? Et des fois, nos actions viennent empêcher ce que Dieu veut faire. On prie dans un sens, mais nos actions ne sont pas alignées à nos prières. Des fois, tu es l'obstacle à ce que Dieu veut faire. Deuxième chose, Dieu n'exauce pas ce qui n'est pas aligné à sa volonté. Est-ce que ta prière est alignée avec la volonté de Dieu? Ah, je ne comprends pas, Dieu n'agit pas, il ne réalise pas ce que je veux. Je ne comprends pas, j'ai joué à max million et je n'ai pas gagné. Pourtant, j'ai jeûné, j'ai prié. Pourquoi je n'ai pas reçu le jackpot de 67 millions de dollars? Ça nous prête à sourire, mais on fait souvent ça pour plein d'autres choses. Jacques 4,3 nous dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. » Est-ce que ce que tu demandes est juste pour toi, juste pour ton plaisir, juste pour tes propres motifs? Et comprenez-moi bien, il n'y a rien de mal à prier pour nos besoins. Mais est-ce que c'est juste pour satisfaire toi, tes envies, tes plaisirs à toi? Est-ce que ce que tu demandes est aligné avec la volonté de Dieu? Je me rappelle, j'étais avec des jeunes adultes et j'ai une jeune adulte qui me disait « Ah, je prie pour qu'il puisse se passer quelque chose avec un gars à ma job, tout ça. Il est-tu chrétien ?»« Non, il n'est pas chrétien, mais je prie vraiment. » Tu n'es juste pas aligné avec la volonté de Dieu. Pourquoi Dieu exaucerait quelque chose qui n'est pas en faveur de sa volonté? L'affaire, c'est que dans ce genre de situation, souvent tu ne le sais pas, mais en n'exaucant pas ta prière, Dieu te protège. Dieu te protège de tes prières. Incroyable. Dieu te protège de tes prières. Dieu sait tout, c'est un Père aimant et il sait ce qui est meilleur pour nous. Oh, ça ne veut pas dire que ce sera facile, mais ce sera meilleur. Ce sera meilleur pour nous. Et si tu sais, si tu es pleinement persuadé que Dieu t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi, alors fais-lui confiance. Peu importe ce qui se passe, même s'il ne répond pas à certaines de tes prières. Et c'est pour ça qu'on a besoin de lire sa parole, pour connaître sa volonté. Crois-moi, quand tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre ce qu'il veut pour toi, tu vas comprendre sa volonté, et crois-moi, tu vas gagner beaucoup de temps dans ta vie de prière, plutôt que de prier à côté. Lis la parole de Dieu, lis ses promesses, lis ce qu'il dit, lis sa vérité, tu vas la connaître. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Connais la volonté de Dieu, connais sa parole, lis-la. Ah, mais moi, je déclare les choses. Il est écrit, la prière du juste a une grande efficacité. Alors, Seigneur, je déclare maintenant. Vous connaissez les déclarations? C'est génial, les déclarations, c'est super. C'est une nouvelle mode où quand tu déclares, tu obtiens. C'est bien beau de déclarer, mais que dit la parole de Dieu? Cette fameuse phrase, vous connaissez la prière du juste a une grande efficacité? Non, vous ne connaissez pas? Vous connaissez ou pas? Ouais, mais si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. La prière du juste a une grande efficacité. Les chrétiens, ils la connaissent, cette phrase-là, en général. La prière du juste a une grande efficacité, Seigneur, alors je prie. Ok, mais arrêtons-nous sur la phrase. La prière du juste a une grande efficacité, Jacques 5, 16. Mais on sort juste ça. Revenons dans le contexte de cette phrase-là, et qu'est-ce que ça dit? Le contexte est important, il faut lire la phrase d'avant. Le texte nous dit, Jacques 5, 16, juste avant, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Ça veut dire quoi? C'est que la personne qui est justifiée, alors quand elle prie, ça a une grande efficacité. Quand on vient devant Dieu, comme on dit souvent, entre guillemets, les mains pures, quand on a péché, on a un souci. Et l'idée, quand je dis ça, n'est pas de rentrer dans la culpabilité ou dans le mérite et de dire « Ah, tu es pécheur ». Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire, justement, tu as besoin de pardon. Ce qui empêche certaines de nos prières d'être efficaces, c'est qu'il y a un manque de pardon dans nos vies. On a besoin du pardon de Dieu. Quel est le péché qu'on met de côté, qu'on ne dit pas à Dieu et qu'on omet de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, je te demande pardon ». C'est la Bible qui le dit. La prière du juste a une grande efficacité. Et Dieu a accompli tout ce qu'il fallait pour ça. Il a envoyé son Fils Jésus sur la croix mourir pour nos péchés. Notre seule part à nous, c'est de profiter de cette grâce-là et de dire « Seigneur, je te demande pardon pour ça ». Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et on crie, on le déclare. Oh, la prière du juste a une grande efficacité. On a besoin de demander pardon. J'ai besoin de demander pardon à Dieu. Est-ce que ça se pourrait que ta prière ne soit pas efficace parce qu'il y a du péché dans ta vie? Un péché que tu ne remets pas à Dieu et dont tu ne te détournes pas? Puis encore une fois, l'idée ici, c'est de dire, accourons dans les bras de Dieu. Allons dans sa présence, allons chercher son pardon, allons chercher sa grâce. Maintenant, trois raisons qui dépendent de Dieu et de toi. Quand ma prière ne change rien. Première chose, il faut persévérer. Persévérer. Est-ce qu'on aime persévérer ? Pas du tout. C'est plat de persévérer. On n'aime pas ça, persévérer. Les résolutions de début d'année, c'est compliqué. Les commencer, ce n'est pas un problème. Les continuer, ça, c'est le défi. On vit dans une génération où on veut tout, mais tout de suite. On n'aime pas attendre, ça prend trop de temps. Okay ? Mais les bonnes choses prennent du temps, comme le vin. Un bon vin qui a bien maturé, ça prend du temps. Un fromage affiné, ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Les investissements boursiers, si tu veux que ça fasse et que ça produise des intérêts, ça prend du temps. Du temps et de l'argent. Ceci étant dit, ce qui compte souvent dans les investissements, ce n'est pas combien tu mets, c'est quand tu le mets. Plus tôt tu le mets, plus ça grandira. Ça vaut pour le vin, ça vaut pour le fromage, ça vaut pour les investissements, ça vaut pour les relations et l'amitié. Les plus belles amitiés, souvent, sont les plus vieilles amitiés. Parce que ça a pris du temps, parce qu'on se connaît, parce qu'il y a des amis que tu connais, tu sais que tu peux être toi-même. Il n'y a pas de faux semblants, la personne te connaît comme tu es. Souvent, mari et femme, personne ne nous connaît mieux que l'autre personne. On peut faire des sourires et tout ça, la personne sait que ça va-tu aujourd'hui ? Bon, nous, les hommes, on a un peu plus de mal avec ça, à découvrir ce qui se passe. Déjà qu'on a du mal à remarquer que notre femme a changé de coiffure, mais... mais tout ça prend du temps. Les bonnes choses prennent du temps. Ces relations-là prennent du temps à bâtir et les bonnes choses prennent toujours du temps. On ne veut pas attendre. On s'est converti à la religion de l'instantanéité, à la société un peu micro-ondes où tout le monde veut tout de suite, où quand tu mets même quelque chose 30 secondes au micro-ondes, tu appuies juste avant que ça fasse bip, bip, bip. Ok, on aime ça. Et on veut la même chose pour nos prières. On veut que ça se termine maintenant. On veut des prières Amazon Prime. C'est ça qu'on veut, des prières Amazon Prime répondues et livrées en moins de 48 heures. Seigneur, ça a l'air que je vais changer de Dieu parce que tu n'es pas assez rapide. Je pense que je vais aller vers Amazon Prime parce que eux, ils lisent. Eux, ils sont à temps. Et c'est comme si on veut un Dieu Amazon Prime. Maintenant, tout de suite. Et on entend dans les fausses conclusions et dans les fausses théologies que si Dieu n'a pas exaucé là, c'est que tu as manqué de foi et que ta prière n'a pas été assez puissante. Ça, c'est des mensonges. C'est faux, c'est absolument faux. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et l'attente fait partie du processus. Fais confiance au processus de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Parce que la patience n'est pas attendre que Dieu agisse, c'est attendre pendant que Dieu agit. Quand on attend et qu'on prie, on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je suis sûr que Dieu, il est là avec un mégaphone. Qu'est-ce que tu crois que je fais en ce moment ? C'est ça que je fais. La patience, c'est attendre pendant que Dieu agit. Continuons à fournir des prières à Dieu. Continuons à fournir des prières, parce que ça lui permet d'avancer. Dieu a besoin de nos prières pour faire avancer nos situations. Est-ce qu'il pourrait le faire sans nos prières ? Totalement. Il a décidé de le faire avec toi et avec moi. Et Dieu se sert de ta prière pour faire avancer les choses dans ton travail, dans ta famille, dans toutes tes situations. Dieu agit de l'autre côté pendant que tu pries. Tes prières activent le bras de Dieu, alors continue, ne lâche pas, persévère. Lâche pas, maman, bébé, lâche pas, mon âme, lâche pas la patate. Persévère. La vérité, c'est que la prière est davantage pour nous que pour Dieu. On a besoin d'apprendre à lutter dans la prière. Et ça, on ne nous apprend pas trop. Aujourd'hui, quand quelque chose est cassé, qu'est-ce qu'on fait ? On le jette. Quand une relation ne nous satisfait pas, on s'en débarrasse. Alors pourquoi t'as quitté l'autre personne ? Oh, elle me rendait plus heureuse. Ah, ok. C'est fini. On jette. On n'aime pas attendre, on n'aime pas patienter, on n'aime pas se battre, on n'aime pas lutter pour ce qui est important dans nos vies. Mais on a besoin d'apprendre à lutter dans la prière, à ne pas abandonner, à avoir assez d'estime pour Dieu pour être persuadé qu'il ne nous laissera pas tomber. Connais-tu assez Dieu pour savoir qu'il ne te laissera pas tomber ? Oh, je te le dis, il est assez bon, il t'aime assez, il ne t'abandonnera jamais, on l'a chanté tantôt. J'ai entendu des gens dire que si on demande plus d'une fois quelque chose à Dieu, ça veut dire que c'est de l'incrédulité. On manque de foi. As-tu déjà entendu ça ? Oh, mais si tu n'arrêtes pas de répéter la même prière, c'est que quelque part tu crois que Dieu ne t'a pas entendu et que tu manques de foi. Mais je crois que ces gens n'ont pas bien lu la parole de Dieu. Parce que c'est exactement ce que Jésus nous dit. L'histoire du juge unique. Luc 18, verset 1 à 8, pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Constamment, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette même ville une veuve qui venait constamment le trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « J'ai beau ne pas craindre Dieu et ne pas me préoccuper des hommes, cette veuve, Meka, elle m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Je pense que ça, c'est un bon français correct. Je ne pense pas qu'il ait dit ça exactement. Je ne ferai pas la traduction, je vous la laisse faire. Et le Seigneur ajouta, « Notez bien comment ce mauvais juge réagit. Alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit et qu'il tardera à leur venir en aide ? Moi, je vous dis qu'il défendra leur droit promptement. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» La persévérance fait partie de la vie chrétienne. La persévérance dans la prière fait partie du processus. Même Jésus en parle. Ne lâche pas, continue, persévère. D.L. Moody, qui est un prédicateur itinérant de la fin du XIXe siècle, était l'un des évangélistes les plus influents de l'ère moderne. Il était l'un des 9 enfants nés d'une mère monoparentale qui avait du mal à garder de la nourriture sur la table. Il était vendeur de chaussures à Boston avec seulement une éducation de 5e année. Et Moody est devenu croyant à l'âge de 17 ans. Et il a commencé à prêcher auprès des adolescents négligés et marginalisés peu de temps après. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu était avec lui, il y avait une faveur sur lui, et il a ensuite parcouru le monde, et il y avait des foules de 30 000 personnes qui venaient écouter ses sermons. Et beaucoup le considèrent aujourd'hui comme le plus grand évangéliste du 19e siècle. Et même si les fruits de son ministère parlent d'eux-mêmes, sa méthodologie n'était ni innovante, ni impressionnante. Aujourd'hui, on s'est habitué à ce que, tu sais, on ait des techniques pour tout. Tu sais, quand il y a une vague de salut, que les gens donnent leur vie à Jésus, tu sais, c'est grâce à l'innovation, c'est une nouvelle stratégie, une nouvelle technique. Puis s'il y a un réveil quelque part, on a toujours une raison technique pour expliquer ce qui s'est passé. Mais la vie et le ministère de Moody constituent une exception à la règle. Toute sa stratégie pour amener des gens à Jésus, c'était la prière. C'est tout. Il n'y avait aucun artifice, il n'y avait rien d'autre. Juste la prière. Je vous assure que ce qui fait que les gens vont venir à Jésus, ce n'est pas la prédication de Stéphanie ou ma prédication spécialement, c'est quand l'Église, il y a plus, va se mettre à prier ensemble. C'est ça qui va changer les choses, vraiment. C'est nos prières qui font bouger le bras de Dieu. Et c'est la technique de Moody, y prier. Il y a une anecdote souvent racontée qui va avec la légende, où il est dit que Moody avait dans sa poche, chaque jour de sa vie d'adulte, une liste de 100 prénoms dans sa poche. Une liste de 100 prénoms qui traînait tous les jours avec lui. Une centaine d'amis qui n'avaient aucune relation avec Jésus. Le travail d'amour de Moody était secret. Il priait pour eux secrètement, en leur faveur. Et il plaidait avec Dieu pour qu'il se révèle à chacun d'eux, d'une manière qu'ils puissent percevoir et recevoir son amour. Et prier leur nom pour leur salut. À sa mort, 96 des noms figurant sur cette liste étaient devenus des prières exaucées. Un taux de réussite de 96%, pas trop mauvais. Est-ce qu'il y en a qui veulent signer pour ça ? Oui, nous allons prendre à l'Espace Connect tout à l'heure les noms. 96% à la prière, pas pire quand même. Mais ça devient plus intéressant. Au funérailles de Moody, les 4 noms restants faisaient tous partie de l'assistance. Ces 4 amis ont été, chacun de leur côté, tellement touchés par le service funéraire de Moody qu'ils sont tous venus à la fois à ses funérailles. Alors comment un vendeur de chaussures ayant fait des études jusqu'en 5e année est-il devenu l'un des évangélistes les plus influents du 19e siècle ? La prière. Il a persévéré, il n'a pas lâché. Il priait, il priait, il priait. Seigneur, je te prie pour mes enfants, je te prie pour mes enfants, je te prie pour mes enfants. Seigneur, je te prie pour mes parents, je te prie pour... Et si je suis honnête avec vous, mon frère était à Christ, puis il ne l'est plus. J'ai prié pendant longtemps pour lui. Et des fois, ça fait des années que je n'ai pas prié. Et je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, dire « Waouh, Moody, il était incroyable, puis on va tous faire ça, on va faire une liste de noms tous dans nos poches. » Non, parce que je sais que dans 2 semaines, on ne le fera plus. Mais il y a quelque chose avec la prière, à persévérer, à ne pas lâcher, à continuer, à frapper, à frapper, à frapper, à frapper. Nos prières font agir le bras de Dieu. Alors mettez le mercredi 29 janvier à vos agendas. Mercredi, quelle date ? Le mercredi 29 janvier, parce que rien ne change plus et rien n'est plus puissant que lorsque l'Église se réunit et a prié. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Venez, mettez ça à vos agendas. On va prier pour nos familles, pour notre Église, pour notre ville. Et c'est ça qui va faire la différence. Il y a une foi, puis il y a un feu qui monte quand on se réunit et quand on entend les prières des uns et des autres. Ce matin, on priait, puis j'étais comme, on était avec l'équipe, puis Isabelle qui prie, puis je dis, ça fait du bien d'entendre Isabelle prier. On a besoin de s'entendre prier les uns les autres. On a besoin d'entendre les cœurs des uns et des autres. Et de dire, waouh, un tel vit telle situation, et moi aussi. Quand on prie ensemble, il y a quelque chose qui vient qu'on ne peut pas vivre quand on est tout seul. Le 29 janvier, soyez là. Faites-vous ce cadeau-là d'être là le 29 janvier. Vous savez pourquoi ? Parce que le 29 janvier, c'est ma fête. C'est ma fête le 29 janvier. Alors faites-moi ce cadeau. Faites-vous ce cadeau-là. Soyez là le 29 janvier. Prions ensemble. J'ai envie de voir ce que Dieu va faire. Et je vous prophétise, le 29 janvier, vous voudrez tout sauf venir. Vous allez être fatigué. Vous ne voudrez pas être là. Vous aurez toutes les raisons du monde de ne pas être là. Je vous le prophétise, je vous le dis d'avance. Et vous savez quoi ? Moi non plus, je ne voudrais pas être là. Je vous le dis, le mercredi, je vais dire, ah, c'est vrai, ce soir, il n'a rien appris. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, chaque fois qu'on vous dit, allons à la maison du Seigneur, vous dites, oui, alléluia. Non, ce mercredi-là, vous n'aurez pas envie d'être là, vous serez fatigué, il arrivera quelque chose, je vous le prophétise d'avance. Mais venez pareil. Parce que cette soirée-là, ça va être comme aller au gym. On n'a pas envie d'aller au gym, ça ne nous tente pas. Mais une fois qu'on est allé au gym, on fait, ah, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin. Vous ne voudrez pas être là. Mais venez pareil, parce qu'à la fin de la soirée, vous direz, ah, ça m'a fait du bien, j'avais besoin d'être là. Alors venons, prions pour nos familles le 29, mercredi soir. Je suis convaincu que ce sera un moment de victoire, ce sera un moment de libération, et ce sera surtout un moment de rencontre avec Dieu. Et vous savez quoi ? J'en ai besoin. J'en ai besoin, moi le premier. Cette anecdote à propos de Moody, elle montre qu'on a besoin de persévérer. J'aime beaucoup une sorte de Daniel, alors qu'il est en jeûne et prière, et il prie, ça fait 21 jours qu'il prie, et vous savez quoi ? Rien ne se passe. Il n'y a rien qui se passe. Pour ceux qui sont habitués à jeûner et prier, qui aiment ça jeûner et prier, des fois c'est un repas, des fois c'est une journée, il y en a qui font une semaine entière. Moi j'ai souvent fait des jeûnes d'une semaine à l'eau, je vais sûrement en faire un en janvier, et je peux vous dire, ce n'est pas glorieux. Le ciel ne descend pas sur terre, puis... Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est ce qui se passe avec Daniel. Il prie, ça fait 21 jours, et vous savez quoi ? Il n'y a rien qui se passe. Et au bout du 21e jour, un ange arrive. Et Daniel 10 nous dit, au verset 10, « Alors une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis le personnage me dit, « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Il poursuivit, sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, à prier, ta prière a été entendue. Je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume des Perses s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Je ne ferai pas une grosse explication de ce texte-là, il y aurait tellement de choses à dire, mais il y a 3 choses qu'on peut retenir de ce texte. La première chose, c'est que, alors que tu pries, que tu vois qu'il n'y a pas de réponse, je veux juste que tu saches que, premièrement, tu es aimé de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Sois-en sûr. Deuxième chose, ta prière est entendue. Nos prières sont entendues. La Bible nous dit que même chaque larme est recueillie. Dieu entend tes prières. Dieu entend chacune de tes prières, chacun de tes soupirs. Même les prières où tu sais, où tu es comme ça, tu fais... Il n'y a rien qui sort. C'est juste des souffles, juste des larmes. Dieu les voit, Dieu les entend. Dès le premier jour où tu t'es appliqué, ta prière a été entendue. Dieu entend nos prières, chacune d'elles. tu es aimé de Dieu, ta prière est entendue. Et la troisième réalité, c'est qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Et il faut lutter et se battre. Ce qui demande de persévérer et pas lâcher. Il y a un combat spirituel. C'est pas juste « Ah, ça y est, c'est ouvert ». Non, il y a un combat. Il y a un combat. Et il faut se battre, surtout pour les gens. Surtout quand on prie pour les gens. Il y a un combat spirituel. Alors ne lâche pas, continue, persévère. J'espère que la réunion de prière, et je le sais, ce ne sera pas la seule. Le but, ça va être de persévérer, continuer à prier dans ces réunions de prière-là. Persévérer. Parce qu'il y a certaines victoires dans la prière qui prennent du temps. Parce qu'il y a un combat livré. Il y a un combat spirituel pour la vie des gens. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'aime ça, regarder les reportages historiques, les documentaires historiques. J'aime ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et il y a un truc qui est sorti dernièrement sur Netflix, c'est Churchill at War, Churchill dans la guerre. C'est l'histoire de Churchill. Et j'ai écouté toute cette chose-là et c'est hyper intéressant. Et j'aime ce qu'il dit. Churchill, en 1941, il a dit « Jamais, jamais, jamais n'abandonner, jamais. » Et alors que Churchill est là, il est au pouvoir dans les années 40, Hitler est en train d'envahir toute l'Europe et personne ne réagit, tout le monde se fait écraser. Et la seule chose qui risque d'arriver à l'Angleterre, c'est qu'ils vont aussi se faire écraser. Sauf qu'au lieu d'abandonner, il a décidé « Non, nous on va rester et puis on va se battre. » Puis peu importe, on va se battre. Il dit « Jamais, n'abandonnez jamais. » Et voici le discours un petit peu qui a eu lieu le 27 octobre 41. Il dit « n'abandonnez jamais, jamais au grand jamais. N'abandonnez jamais en rien si ce n'est pour l'honneur et le bon sens. Ne cédez jamais à la force, ne cédez jamais à l'apparente puissance de l'ennemi. » Et j'aime cette phrase parce que c'est l'idée du combat et de l'ennemi. Et l'ennemi de nos âmes, on peut avoir l'impression des fois qu'il est juste grand, que c'est trop gros, c'est trop lourd. On en vient même à croire la fausse pensée que « Dieu est-il plus grand que Satan ?» Ou « C'est-tu kiff-kiff ?» Non. Même si l'ennemi a l'air apparent, même si la situation a l'air folle, n'abandonne jamais parce que Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles. Et il ne va rien se passer jusqu'à ce qu'à un moment, bang, il y a quelque chose qui se passe, il y a un retournement de situation, il y a un twist, il y a quelque chose. Dieu fait des miracles. N'abandonnez jamais. Alors, je ne sais pas ce que tu vis ou ce que tu seras amené à vivre plus tard. Parce que peut-être qu'en ce moment, tout va bien, tu sais quoi, gloire à Dieu, tant mieux pour toi. Je ne sais pas ce qui sera amené à vivre. Et les prières que tu devras faire pour combattre. Mais si ton combat et ta prière sont justes, continue, ne lâche pas, n'abandonne pas. Persévère. 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 On a besoin de persévérer, j'ai besoin de persévérer. On a tous besoin de persévérer. Deuxième chose, pourquoi des fois ça ne change rien, nos prières, c'est parce que Dieu a un meilleur plan. Dieu a un meilleur plan pour nous. Dieu a un meilleur plan pour toi. Dieu agit selon son calendrier parfait. Ce que nous percevons comme un retard peut être une préparation pour quelque chose de meilleur. Mais souvent, la seule manière de le savoir, c'est de passer au travers et de le vivre. Et c'est souvent plus tard, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelques années plus tard, qu'on regarde en arrière et qu'on fait hey, « c'est vrai, hey, heureusement que Dieu n'avait pas répondu à cette prière. » Parce que c'est seulement plus tard qu'on voit le big picture de Dieu, de ce que Dieu était en train de faire avec nos vies. Dieu travaille souvent dans les coulisses pour préparer un résultat plus grand, même si on ne voit pas un changement immédiat. Même si tu ne comprends pas, fais du confiance. Fais confiance au résultat. Parfois, Dieu n'exauce pas parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il te protège. J'aime cette idée que la bénédiction de Dieu, c'est parfois ce qu'il nous donne, mais c'est aussi souvent ce qu'il nous évite. C'est parfois ce qu'il nous donne, mais c'est souvent ce qu'il nous évite. Sauf que ce qu'il nous évite, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Des promotions qui ne sont pas données, des personnes qui sortent de notre vie. Et ça fait mal, on dit, mais Seigneur, mais pourquoi? Et tu ne le sais pas, mais Dieu te protège. Dieu te protège, il est là en arrière. J'aime voir Dieu et ses anges comme le service secret divin. On ne sait pas ce qui se passe. Un peu comme des attentats qui sont déjoués, des choses qui sont mises de côté et que plus tard on les découvre, on dit, waouh. Et Dieu agit souvent dans les coulisses, dans l'ombre. Mais on ne sait pas. Alors, fais confiance à Dieu. Je pense qu'un jour, quand on sera au ciel et qu'on verra tout de notre vie, on fera « Wouh ! Mike, tu m'en avais évité de grosses, là. » Mais nous, on voit juste ce qu'on voit. Fais confiance à Dieu parce que Dieu t'évite des choses et te protège. Dieu a un meilleur plan pour toi. Tu sais, quand tu pones la lumière rouge et que tu arrives dans un embouteillage et tu es en retard, et juste après, tu passes et tu vois un accident, tu dis « Oh, Peut-être pas mauvais que je prenne ce trafic-là, finalement. Tu sais, quand le matin, avant de partir, tu sais, ton enfant, il fait renverser le bol de lait. Peut-être que c'est la maladresse de ton enfant, ou peut-être que c'est la main de Dieu. Peut-être les deux, qui sait, je ne sais pas. Bon, sur le moment, tu ne le réalises pas, puis tu fais « Oh, toi !» Mais non, je sais que vous êtes plein d'amour, les parents. Mais Dieu nous protège, Dieu a des meilleurs plans pour nous. Dieu sait ce qu'il fait et Dieu sait pourquoi il le fait. Dieu sait pourquoi il ne répond pas à certaines choses, Dieu sait pourquoi il prend son temps. C'est un verset qu'on n'aime pas les chrétiens, c'est « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Mais il faudrait qu'il active un peu parce que là, ça commence à... Jérémie 29, 11. « Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Dieu a des plans parfaits pour nous. Dieu a des plans parfaits pour toi. Et peut-être que tu ne comprends pas, et peut-être parfois c'est difficile, mais Dieu sait où il t'emmène et pourquoi il t'amène. Troisième et dernière chose, Dieu ne fait pas de changement dans la situation parce que le changement est ailleurs. Le changement est ailleurs. Des fois, il n'y a pas de changement malgré nos prières parce que ce que Dieu désire changer plus que ta situation et tes problèmes, c'est toi. C'est moi. Ce que Dieu désire plus changer que nos situations et nos problèmes, c'est nous. Dieu veut faire une œuvre en nous, avec nous. Dieu veut changer ton cœur, ton caractère, ta confiance en lui. Et Dieu dit, et si je change rien à ta situation, est-ce que tu me feras toujours confiance? Est-ce que tu seras toujours là? Est-ce que tu croiras toujours en moi si je fais rien? Des questions que je me pose des fois. Et si ça doit durer encore, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas me faire confiance? Il y a dans le livre de Daniel l'histoire de trois jeunes amis appelés Shadrach, Meshach, Dan. Oui, Dan, tu connais la parole. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ils sont au service du roi de Babylone qui s'appelle Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor. Moi, quand je prêche aux enfants, j'aime bien l'appeler Nabucodinosor. Comme ça, on s'en rappelle bien. Et ils ont été déportés du royaume d'Israël. Ils sont jeunes, beaux et brillants, comme Dan. Et ils sont au service du roi. Mais ce roi, il est un peu mégalo, il décide d'ériger une grande statue faite en or pour que le peuple puisse l'adorer. Sauf que Shadrach, Meshach et Abednego, eux, ils adorent le Dieu d'Israël. Et ils disent, nous, on n'adorera jamais ton Dieu. On n'adorera jamais ton image, ta statue. Sauf que là, ils se font stouler. Ouais, ça a l'air, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne sont pas agenouillés, ils n'ont pas... Je sais que vous n'êtes pas comme ça. Et bien sûr, ils se font poigner. Et à un moment donné, le roi s'énerve, parce qu'ils sont au service du roi. Alors, dans Daniel 3, 15, 18, il nous est dit, le roi leur parle, et il leur dit... Êtes-vous prêts maintenant à vous incliner jusqu'à terre pour adorer la statue que j'ai faite? Si vous refusez, vous serez jetés immédiatement dans la fournaise où brûle un feu intense. Quel dieu pourrait alors vous arracher à mon pouvoir? On imagine bien sûr. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi. Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas. Sache bien que nous nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'honorer la statue d'or que tu as dressée. J'aimerais inviter les musiciens à bien vouloir s'approcher, s'il vous plaît. Ils ont confiance en Dieu. Ils croient qu'il est tout puissant. Mais même s'il ne le fait pas, on ne bougera pas. Ça ne changera rien à ce qu'on croit. Ça ne changera rien à ce qu'on croit de Dieu, qu'il est bon, qu'il est puissant. Ça ne changera rien. Il peut le faire. Mais même s'il ne le fait pas, je resterai sur mes positions, je m'attacherai à toi, je dirai, Seigneur, tu es ma vie, tu es tout ce dont j'ai besoin, tu es mon espérance, peu importe ce qui se passe. Que tu le fasses, et je sais que tu peux le faire, même si tu ne le fais pas, je garderai ma confiance en toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne mettent pas leur joie et leur espoir dans l'action éventuelle de Dieu, mais ils mettent leur joie dans le fait qu'ils connaissent Dieu. Romains 5, 2, 4 nous dit ce qui nous réjouit, c'est l'action de Dieu. Non, ce qui nous réjouit, c'est l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous réjouissons même dans nos détresses. Celle-là, elle est dure quand même. Nous nous réjouissons même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve, et la résistance, l'espérance. Et ça nous fait du bien de le lire, mais ça ne change rien à nos situations. Vous voyez ou pas? Tu sais, souvent, on prie pour la patience. Ne faites jamais cette prière-là. Dieu répond toujours à cette prière. Seigneur, apprends-moi la patience. Oh, il ne va pas te donner de la patience. Il va t'envoyer une situation qui va te faire vivre la patience. Je ne sais pas pourquoi Dieu répond vite à ce genre de prière. En général, mon expérience. Parce que le désir de Dieu au travers de ce qu'on traverse, même s'il veut nous libérer de nos détresses, et j'en suis persuadé, c'est de nous façonner. C'est de nous tailler comme une pierre précieuse. C'est de nous amener à notre niveau, dans qui on est et dans la relation qu'on a avec lui. Parfois, Dieu prend du temps pour changer notre épreuve parce qu'on a besoin que l'épreuve nous change. C'est ça qui arrive. Et la vérité, c'est qu'on n'a aucun plaisir dans nos épreuves. Mais je vous assure que dans les épreuves que j'ai vécues, personnellement, puis ça ne paraît pas derrière mon sourire, et j'ai rasé de près ce matin, je ne regrette pas ces épreuves-là. Oh, je ne veux pas les revivre, hein, comprenez-moi bien, je ne suis pas maso. Mais je ne les regrette pas. Parce qu'elles m'ont rapproché de Dieu. Elles m'ont rapproché de lui, de qui il est, de sa présence. Et j'ai réalisé dans ces épreuves que Dieu pouvait me donner tout ce dont j'avais besoin. Sa présence, sa paix, sa joie, son amour. Ça, c'est juste dans l'épreuve qu'on le vit. Parce qu'en général, quand tout va bien, tout va bien. La vie en général et notre vie de prière ressemble parfois à ce rocher. Ça ressemble à ce rocher parfois. Et parfois, on a beau pousser, on a beau prier de toutes nos forces sans nous relâcher, mais ça bouge pas. Ça bouge pas. Tu pousses et tu pousses et tu pousses et tu pries et tu pries, mais il n'y a même pas un millimètre qui a bougé. Et tu dis, à quoi ça sert? À quoi ça sert de prier? Il n'y a rien qui change. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de tenter de continuer. Et je finis par me dire, j'arrête, ça ne sert à rien, rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien. Tu es vraiment sûr que rien n'a changé? Oh, la situation n'a pas changé, mais toi, t'as changé. Toi, t'as changé. Parce qu'à force de pousser, à force de prier, tu ne le sais pas, mais t'as changé. T'es différent. Tu t'es musclé, tu t'es fortifié. T'es devenu une nouvelle personne, une meilleure personne. La situation n'a pas changé, mais t'as changé. Tu t'es musclé. T'es bien plus fort et résistant qu'avant. Et Dieu, parfois, permet à l'épreuve et à la situation de ne pas évoluer. Parce que la situation nous fait évoluer. Parce qu'on se rapproche de lui, on devient plus sensible à lui, à Dieu, et on est plus modelable. Parce que je crois que le plus important avec la prière, c'est pas ce que tu obtiens, mais c'est qui tu deviens. Le plus important avec la prière, c'est pas ce que tu obtiens, mais c'est qui tu deviens. Et c'est ce qui intéresse le plus Dieu. C'est qui tu deviens, c'est qui je deviens. En tant que personne, en tant que chrétien, en tant que Camille, en tant que mari, en tant que femme, en tant que collègue. Et souvent, ça m'est arrivé même dans des temps de jeûne et prière où tu vas dans la présence de Dieu et tu viens avec un sujet particulier. Tu l'amènes à Dieu, il semble que Dieu dit « Ouais, ouais, c'est bien, mais moi je veux te parler de ça. Moi je veux te parler de ça. » Et souvent, Dieu vient chercher notre cœur. Tu viens chercher notre cœur. Et si la prière n'était pas ce que tu croyais? Et si Dieu voulait faire autre chose? Je me rappelle d'un moment particulier où je vivais une situation qui était inextricable et j'étais triste. Je ne suis pas un gars très émotionnel, je ne pense pas l'être, vous en parlerez à ma femme. Je trouve que je manque d'émotion des fois, mais ce n'est pas vrai. Et je pleurais à chaudes larmes, c'était horrible, j'en pouvais plus. Je suis juste allé dans la présence de Dieu. J'ai juste senti son amour, j'ai juste senti son étreinte. J'étais comme... Et tranquillement, au fur et à mesure de la prière, je commençais à avoir un sourire comme ça. Oh, j'avais les larmes aux yeux. Hein. J'avais un sourire jusque-là. Et je ne pouvais pas l'expliquer. C'est juste une joie qui venait du ciel. Et quand j'ai fini mon temps de prière, ma situation n'avait pas changé. Mais moi, j'avais changé. J'avais changé. J'avais retrouvé ma joie. Et parfois, dans la prière, c'est vrai que la situation n'a pas changé. Mais combien peuvent témoigner qu'alors que tu as prié, ton esprit change, ton regard et ta perspective changent sur ce que tu vis et sur ce qui est devant toi. Ton cœur change et ta confiance et ton attachement à Dieu se renouvellent. Alors prie, continue, ne lâche pas, accroche-toi. sois assuré de plusieurs choses. Première chose, Dieu t'aime. Il entend ta prière, puis il va agir. Alors peut-être certains, tu as besoin de recommencer à prier, de redécouvrir les joies de la prière. Bonne nouvelle, tu t'es privé assez longtemps. Tu peux revenir. Dieu t'attend dans la prière. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie de prière, et je ne suis pas meilleur que toi. Mais quand Dieu nous voit venir dans le lieu secret, il fait, waouh, mon fils, ma fille, viens, viens. Mais Seigneur, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, je te demande pardon. Tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Comme disait Stéphanie la semaine dernière, c'est juste toi qui t'es privé. Dieu était toujours là. Dieu était toujours là. Alors, est-ce qu'on pourrait se lever ce matin en terminant? Et juste peut-être revenir dans la prière. Je ne sais pas où tu en es aujourd'hui. Peut-être tu pries pour quelque chose et tu as besoin d'une action de Dieu, puis je vais prier pour ça. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose parce que ça fait trop longtemps que tu attends. Peut-être toi, tu es rendu dans ta vie de prière où tu n'y es pas, justement. Et Dieu te dit, viens, 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 je suis là. Viens juste dans ma présence. Je veux juste te bénir. Je veux juste avoir un cœur à cœur avec toi. Je veux juste avoir un cœur à cœur. Viens. Peu importe où tu es. Qu'on puisse vivre un temps ce matin où on vient dans sa présence, puis le dîner attendra, il n'y a pas de souci. Viens dans la présence de Dieu, viens te connecter à Dieu, viens dans sa présence. Parce que toi et moi, c'est ce qu'on a le plus besoin, c'est de prier. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu as un Dieu bon, merci parce que tu nous aimes, merci parce que tu réponds aux prières. Oh, des fois, Seigneur, c'est des non, ta réponse. Mais tu réponds. Merci pour toutes les fois, Seigneur, où tu n'as pas répondu à ma prière, parce que tu étais en train de me protéger. Je te remercie parce que tu es un Dieu fidèle. Merci parce que tu agis et tu fais des miracles. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui vivent des prières en ce moment, qui ont juste l'impression que tu ne réponds pas, tu n'es pas là. Je te prie, viens agir dans leur vie. Je te prie qu'il y ait un déclic, je te prie qu'il y ait un twist, je te prie qu'il y ait un changement. Je te prie qu'il y ait un avant et un après. Je te prie que, clac, quelque chose se passe. Viens agir, Seigneur, pour toutes ces situations. Et je te prie pour tous ceux qui prient depuis des mois, des années, et qui vont peut-être encore devoir attendre un peu. Donne-leur la force et le courage de continuer à prier, de ne pas lâcher parce qu'il y a un combat spirituel. Et que chaque prière les rapproche de ce que tu vas faire. Je te prie pour une foi, je te prie pour un courage, je te prie pour une persévérance qui vient du ciel. Viens faire ton œuvre, Seigneur. Viens faire ton œuvre. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont loin de toi. Je te prie pour ceux que la vie de prière est en dents de scie et c'est pas facile, puis il y a de la culpabilité. Seigneur, je te prie que toute culpabilité s'enfuit maintenant dans le nom de Jésus. Et que ton amour déborde dans leur cœur, qu'ils puissent sentir le Père aimant qui dit, viens dans ma présence, c'est tout ce que je désire. C'est juste avoir un temps avec toi, c'est juste avoir un cœur à cœur. Dieu veut un cœur à cœur avec toi, peu importe où tu es. Viens dans ma présence, j'ai tout ce qu'il te faut. J'ai tout ce qu'il te faut. Parce que ce qui m'importe le plus, c'est toi. C'est toi. Alors ce matin, qu'on puisse chanter ce chant pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. On puisse redédier nos vies à Dieu ce matin. On puisse lui remettre nos situations et dire, Seigneur, peu importe la situation, je sais que tu peux le faire. Et même si tu ne le fais pas, je resterai dans ta présence, Seigneur. Alléluia, Jésus. Qu'on puisse chanter. Qu'on puisse fixer nos regards sur Jésus.